12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
À quelques jours de la cérémonie des Oscars, sort aujourd'hui en salle en France un film qui a bousculé l'Allemagne et qui est donc en lice à Hollywood pour la statue du meilleur film étranger, La salle des profs d'Ilker Çatak. On en parle dans quelques instants. Le second film dont nous parlons s'appelle Les carnets de Siegfried. Dans son dernier film, le réalisateur britannique Terence Davis, décédé en octobre dernier, raconte la vie d'un poète britannique, Siegfried Sassoon.
Et on en parle avec vous, Charlotte Garçon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma et on en parle avec vous, Thierry Chasse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Première. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Direction l'Allemagne et le collège donc. On commence ce débat critique avec la salle des profs d'Ilker Çatak.
Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag.
Hat aber nichts mit Magie zu tun, sondern Mathematik.
Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem.
Ey, jetzt lass doch mal los!
On ne sait pas grand-chose de la vie privée de Carla Novak, à part qu'elle est originaire de Pologne et qu'elle travaille dans un collège allemand. C'est dans la salle des profs de ce collège que se noue donc l'intrigue. Et je dis bien intrigue, car malgré ce titre, salle des profs, il faut oublier tous les films français qui peuvent nous venir à l'esprit et qui ont essayé de nous y immerger dans cette salle des profs. Après une série de vols, donc, dans cette salle, Carla Novak, jeune prof de maths idéaliste, nous mène cette enquête pour essayer de démasquer le coupable. D'autant plus motivé qu'un jeune garçon d'origine turque est injustement accusé et pointé du doigt devant toute sa classe par d'autres membres du corps enseignant. Mais ce que va découvrir Carla va ébranler tout l'établissement, ce qui, à première vue, ressemble à un récit du quotidien de l'enseignement, se transforme donc peu à peu en un huis clos éprouvant et un thriller psychologique. Avez-vous été happé, Thierry Chasse ?
Complètement, complètement. Et j'y allais pourtant très à reculons, parce que quand vous parliez de films français qui traitent des profs, j'avais été très déçu, moi, par un métier sérieux de Thomas Lilti.
Sorti en automne dernier.
Voilà, qui est si brillant quand il parle du monde de l'hôpital et qui là, d'un seul coup, en parlant du monde de l'école et en traitant pourtant 23 ou 24 sujets, avait raté un des sujets qui est, quand on parle au professeur d'aujourd'hui, important, qu'il soit, où qu'il soit situé en France et quel que soit le niveau d'école, c'est les conséquences de l'affaire Samuel Paty, par exemple. Ce que ça a au quotidien, les profs qui reçoivent des injonctions contradictoires permanentes et qu'on vient sauver. Ça, c'était complètement occulté. Là, on est exactement dans la logique inverse. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et ça pourrait être un défaut d'ailleurs, que tous les sujets de société sont mis à l'intérieur du film à travers cette histoire. On va parler de harcèlement, on va parler de racisme, que ce soit anti-polonais ou même anti-turc, on va parler de cancel culture, on parle de fake news, de la toxicité des parents. Oui, tout est là, sauf que il y a d'abord un film, un récit, un thriller. Et c'est parce qu'on avance dans ce thriller que les autres sont des éléments essentiels et pris à bras-le-corps et pas occultés. Mais moi, on me raconte d'abord une histoire, l'histoire de cette professeure working girl où on a l'impression que c'est une femme formidable au début, qu'elle a tout sacrifié pour ça et dont on va percevoir petit à petit toutes les failles. Et moi, c'est ce qui m'a en tous les cas emballé. C'est qu'en effet, c'est un film sûr qui reste d'ailleurs dans la classe, qui n'en sort pas, mais c'est aussi un thriller où jusqu'au bout, je ne sais pas comment ça va se terminer.
Huit clos donc, ça, on l'a dit. On a entendu aussi l'ambiance dans la bande-annonce, Charlotte Garçon, avec cette musique, cette tension qui monte et qu'on retrouve au fil du film. Elle monte vraiment, cette tension. Vous attendiez-vous aussi à un thriller psychologique, à cette tension, à cette façon d'aborder aussi cette thématique de l'enseignement ?
Alors, je ne m'attendais à rien de spécial. Effectivement, cette musique dont le motif parfois est proche de ce qu'on appelle le bariolage en musique, c'est-à-dire des cordes très très proches qui sont, et tout ça ressemble au moment où un orchestre s'accorde, mais en fait c'est très dissonant. Donc tantôt c'est le thriller vraiment psychologique, tantôt on sent que tout ça nous dit quelque chose sur cette société avec où chacun a ses raisons, n'est-ce pas? Alors effectivement, le film a un assez grand brio et il est plein comme un œuf. Comme vous disiez, Thierry, tout y est, le harcèlement, la cancel culture. Mais ce qui est amusant, déjà d'emblée, pour rester un peu en ses entours, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, les problèmes de l'école actuelle, contrairement à ce que vous disiez. Pour moi, quand même, les professeurs, leur grand problème, c'est un problème de moyens, d'effectifs, de peut-être de confiance aussi, avec différentes cultures qu'il faut ménager, avec qui il faut communiquer, etc. Et tout ça est quand même, à part la question du racisme et du positionnement moral autour de ça, c'est vrai que c'est quand même très loin des préoccupations, par exemple, françaises actuelles des enseignants. Bon, une fois ça posé, vous avez raison, c'est un film, donc il fait ce qu'il veut à l'intérieur de ce cadre. Ce qui me pose problème, c'est que ce brio me semble ancré, effectivement, dans un parti pris de mise en scène qui est de rester absolument, de camper avec son personnage qui est au départ quelqu'un d'une grande rectitude morale mais aussi quelqu'un qui aime enseigner. Il y a des plans très très lourds sur le plaisir, la joie.
De transmettre, d'expliquer. Voilà,
parce qu'elle est aussi prof de gym, en plus d'être prof de maths, ça doit être une particularité.
C'est en Allemagne assez fréquent, oui.
Donc tout ça est très bien montré, mais tout dans le film m'a paru être une façon d'exposer quelque chose pour ensuite nous tirer le tapis de sous les pieds. Et donc forcément, si on la voit heureuse d'enseigner, on sait que ça va se retourner et que et finalement le personnage est assez nunuche à l'arrivée, c'est-à-dire dans son côté bien pensant et dans sa petite salutation qu'on entendait dans l'extrait que vous avez passé, bonjour comme ça qu'elle fait dire à ses élèves. Donc j'ai trouvé ça problématique pour moi du point de vue du cinéma, parce que j'ai eu l'impression, un peu comme avec les films d'Asghar Farhadi, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Séparation ou du client, où ce sont des espèces de dilemmes moraux, où à l'arrivée, chacun a ses raisons, tout le monde fait partie d'une sorte de Rubik's Cube sociologique condensé dans un lieu unique. Alors tout ça est très rutilant, mais à l'arrivée, j'ai eu une impression de forte misanthropie et pas véritablement de propos politiques.
Alors, deux choses, Thierry Chesse, pour vous faire réagir. D'abord, sur peut-être, effectivement, le personnage de cette Carla Novak, incarnée par Léonie Benesch, qu'on avait déjà vu dans The Crown et notamment une autre série Babylone-Berlin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous disiez nunuche, Charlotte Garçon, est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que justement, le fait d'axer en fait le film sur elle, sur la personne qui travaille, la professeure qui enseigne, effectivement, vous parliez de ce petit rituel qu'elle enseigne, voilà, elle a quelque chose un peu d'idéaliste, et effectivement le tapis va se retirer sous ses pieds.
Peut-être que c'est un peu trop, mais moi ça ne m'a pas gêné. En effet, moi je pense que c'est quand même important d'avoir ce personnage au début, qui y croit, parce qu'à partir, si elle ne croit pas à ce qu'elle fait et qui essaie, et c'est sa manière d'enseigner, qu'il y a quand même, on le perçoit quand même dès le départ, le côté polonaise en Allemagne n'est quand même pas simple, et je pense qu'elle doit aussi redoubler d'efforts. Et moi, je vois ce personnage qui fait bien, mais qui doit faire plus dès le départ. Et le grain de sable est d'autant plus fort, c'est que, comme tout ne va pas bien, on voit bien que elle va, c'est trop, tout est too much, mais elle est trop rayonnante, elle est justement, elle est trop passionnée, elle veut trop bien faire, et à partir du moment où il y a d'ailleurs elle veut trop bien faire, donc elle veut savoir qui c'est pour que quelqu'un ne soit pas accusé à tort, et donc à partir de là, l'idée du trop bien crée ça. Donc moi je la trouve pas nunuche, je la trouve juste, elle essaye d'exister et d'être irréprochable, et ce qui va être forcément compliqué puisqu'elle va être face. Parce que moi, je trouve que ce qui est bien rendu, parce que les manques de moyens, peut-être qu'en Allemagne, c'est pas la même conférence, mais par exemple, les relations des parents, de manière générale, aux professeurs, ça, je trouve que c'est assez universel, et que la toxicité, la violence des retours, on le sent bien. Et ça aussi, ça fait percuter. Et encore plus parce qu'elle est polonaise.
Ça déstabilise effectivement l'établissement, cette enquête que veut mener cette jeune professeure, avec le parallèle de la société. Effectivement, vous disiez, on est dans ce huis clos où toutes ces thématiques et ces problématiques dont vous parliez sont réunies. Et effectivement, ça va polariser les tensions au sein de l'établissement, entre les professeurs, avec les parents qui s'organisent sur les réseaux sociaux pour effectivement savoir ce qu'il faut faire de cette enquête, de ces vols, de ce que fait cette professeure. Et puis même les élèves vont prendre la parole, notamment dans le journal du collège. Donc on est presque effectivement dans un huis clos qui serait le miroir de la société, Charlotte.
Oui, mais c'est pour ça que je parlais de Rubik's Cube aussi, parce que le Rubik's Cube, en tant que jouet, a un rôle rôle pédagogique entre la prof de maths et l'un de ses élèves.
Oscar, le plus brillant.
C'est parce que il me semble que le Rubik's Cube, donc ce cube qui est construit pour qu'on ait du mal à reconstituer six faces unies de couleurs, mais en fait qui est programmé comme tel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît le principe, eh bien, on peut le reproduire, finalement, me semble un modèle d'écriture et de mise en scène. Donc tout est brillamment agencé, écrit, mais à l'arrivée, j'ai quand même l'impression que ce sont des petites facettes et où chaque personnage, y compris chacun des professeurs, hein, parce qu'il y a un panel d'attitudes différentes face au drame qui, je le rappelle, n'est quand même qu'un petit vol, un petit larcin, mais on comprend l'idée de la synecdoque, de la partie pour le tout, mettons. Mais quand même, chacun joue son rôle et remplit sa petite case à l'intérieur de ça. Et c'est vrai que j'avoue préférer des films moins à programme, d'une certaine façon. De même que quand on joue au Rubik's Cube, on sait que la personne qui, elle, sait comment d'avance faire la face, et ben elle la fera. Donc tout ça manque d'air, je dirais, de hasard. Alors on peut justement trouver que c'est ça le thriller paranoïaque. Il ne manque pas une miette du puzzle. En réalité, c'est quand même un goût pour un cinéma, pour moi, beaucoup plus ouvert à accueillant l'incident et le hasard qui s'exprime dans ma légère circonspection oui, par rapport à ce film.
Il y a une scène qu'on retrouve dans ce film et qui est, si je ne dis pas de bêtises, à l'origine de l'écriture de ce film, donc réalisé et scénarisé par Ilker Chatak et son co-scénariste Johannes Dunker. C'est cette scène où on vient fouiller les porte-monnaies des jeunes garçons de cette classe. Donc il y a une responsable de l'établissement qui rentre, qui fait sortir les filles, et on demande aux garçons de montrer effectivement s'ils n'ont pas l'argent volé dans leur portefeuille. Qu'est-ce que ça nous dit de qui est ce réalisateur, d'où il vient, son parcours, et pourquoi il nous raconte ça, Thierry Chaise?
Je pense que c'est en effet l'idée d'une petite chose qui raconte un grand tout, et que c'est ce détail-là. En effet, comme le dit Charlotte, tout ne pourrait pas être dedans. Bon, il y a un vol, tout est, voilà, c'est retrouvé, c'est fini. Et en fait, ce geste-là est vu comme une agression par les élèves. Pourquoi on va plutôt soupçonner, et presque nous-mêmes comme spectateurs? C'est en ça que je comprends complètement les réserves de Charlotte, que moi je n'ai pas partagées, mais je vois cette lecture-là qui fait que ça m'a mis dans une position parfois très mal à l'aise, à la fois parce que je me sens assez manipulé, et en même temps que je trouve que le manipulateur n'est pas mauvais. Et là, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qu'il veut nous dire, on va aller plutôt vers tel ou tel enfant qu'on va accuser, et on se doute bien que c'est forcément pas lui aussi. Mais je pense que c'est l'idée de partir de ça, en effet, mais d'en faire quelque chose de totalement assumé, assez misanthrope en effet, parce qu'on sort de là en se disant, bon, qu'est-ce qui va sauver tout ça? C'est qui le... Il n'y a pas de bien et de mal, mais il n'y a pas de bien du tout, même, je dirais. Et donc, je pense que c'est ça aussi que raconte cette scène et ce qu'a voulu montrer ce réalisateur.
Charlotte Garçon, on présente ce film, en tout cas, le film est présenté comme un film qui a bousculé l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous comprenez aussi pourquoi il a été sélectionné pour représenter l'Allemagne aux Oscars pour la compétition du meilleur film étranger?
Peut-être pour cet aspect, justement, rutilant, très très bien calculé. Sans doute aussi pour des préoccupations sociologiques, malgré tout, qui sont... Et alors, c'est amusant parce que Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, qui était sorti l'année dernière, racontait aussi le problème d'un professeur avec l'une de ses élèves qui l'accusait de quelque chose. Et il y avait une scène de fouille également des élèves, des sacs des élèves. Donc, c'est assez intéressant. Ça m'a refait réfléchir à comment filmer cette scène, comment écrire et filmer cette scène, et comment, dans le long film Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, lui, turc, et non pas allemand, turc, le but était de, enfin, me semble-t-il, de voir aussi comment tout cela contaminait la subjectivité du professeur cancellé, et comment tout cela envenimait tout. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'empoisonnant. Ici, bien sûr que c'est aussi ça le programme, c'est-à-dire que même les gens qu'on voit bien intentionnés, politiquement, etc., sont prêts à toutes les petites vilainies, les petites bassesse, mais je trouve ça assez désespérant. Et si vous voulez, pourquoi je vous dis ça? Parce que Je pense pas du tout qu'un film devrait trouver de l'espoir là où dans la vie il y en a pas, par exemple. Mais je pense que c'est quand même un problème quand j'ai l'impression qu'un film joue contre son camp, comme on dit en sport. Et là, j'ai l'impression qu'il joue, par exemple, contre son personnage. C'est pour ça que je la qualifiais de nunuche, parce que au fond, au début, elle ne l'est pas du tout. Elle n'a pas cette mièvrerie, mais on sent que le programme, c'est qu'on aille quand même vers un piège. Et c'est un film qui piège son héroïne. Et au fond, est-ce que ce ne sont pas un peu les méthodes aussi des uns et des autres pour piéger des voleurs potentiels à l'intérieur du film. Donc ça se mord un peu la queue, avec en plus des références à la Seconde Guerre mondiale, quand on lit une liste d'élèves et qu'il faut faire un signe de tête pour dénoncer. Tout ça me semble quand même d'une lourdeur et d'une... C'est pas parce qu'on est en Allemagne qu'à chaque fois, quand on va chercher quelqu'un qui a volé quelque chose, il faut forcément faire référence à la dénonciation sous le nazisme.
Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmann.
La salle des profs de Hilker, Tchatak, sort en salle aujourd'hui en France et sera en lice ce dimanche pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent du dernier film diffusé à titre posthume du réalisateur britannique Terence Davis, intitulé Les carnets de Siegfried.
Name.
Sassoon Siegfried.
Rank.
Second lieutenant.
Age.
30.
We read your statement, lieutenant, with some alarm. Why did you make it?
I simply cannot remain silent in the face of such casualties.
Ladies and gentlemen, Mr. Siegfried Sassoon, one of our greatest poets.
I am a soldier. I believe that the war upon which I entered as a war of liberation has now become a war of aggression and conquest.
Are you pro-German?
No, I'm pro-human.
You are out of order!
You should be sent to a hospital for nervous diseases in Scotland.
Les carnets de Siegfried sont donc ceux du poète et écrivain britannique du début du XXe siècle, Siegfried Sassoon. En 1914, à peine âgé de 30 ans, il est enrôlé dans l'armée durant le premier conflit mondial, se montre particulièrement courageux au combat, mais face aux horreurs de la mort, il devient objecteur de conscience. Le soldat, décoré de la croix militaire et poète en devenir, rédige donc une lettre à sa hiérarchie pour leur signifier son refus de se taire face à tant d'atrocités et tant de morts. Le film est donc d'abord le portrait de cette époque, à l'aide d'images d'archives notamment et des mots du poète qui sont lus, mais c'est aussi le portrait de cet homme, ce poète mis au banc par son commandement qui enchaîne les relations amoureuses qui se transforment en drame, cet homme qui par ses pamphlets pacifiques recevra aussi une forme de reconnaissance et un accès à une vie mondaine où la liberté n'est en réalité pas la priorité. Le carnet de Siegfried, c'est donc le dernier long métrage de Terence Davis, décédé en octobre dernier. 5 mois après sa disparition, le film sort aujourd'hui en salle. Comment avez-vous reçu, Charles Lotte Garçon, ce dernier long projet qui a duré près de 5 ans de travail pour ce réalisateur britannique?
Mais j'ai reçu justement comme quelque chose de très singulier, un peu par strates. On a l'impression quand on voit un film comme ça qu'il y a des vagues qui nous arrivent dessus. Et que même si, vous avez raison, c'est le portrait d'une époque et le portrait de quelqu'un, et c'est donc un biopic, il y a bien un récit et on a bien la vie. Mais en réalité, ça n'est pas si déconstruit que ça, c'est pas du tout un film expérimental. Mais la singularité de la mise en scène et de l'écriture de Terence Davis, c'est justement ce caractère quand même très particulier. On a une impression d'archéologie intime. C'est à la fois très subjectif. On a l'impression que le cinéma n'est qu'un art de la mémoire, mais d'une mémoire toujours de quelque chose en décomposition presque. Alors, en disant décomposition, c'est un mot fort. Et on voit par exemple des images d'archives de cadavres de la Première Guerre mondiale qui sont très choquantes. Et le poète lui-même bascule, on pourrait dire, de son engagement militaire pendant lequel il était paraît-il d'ailleurs très efficace, c'était vraiment un très bon soldat, téméraire plus que courageux, à quelque chose, à une sensation que là, ça pue la mort. C'est-à-dire que toutes les décisions politiques au plus haut de l'État sont macabres. Et ce qui m'a plu dans le film, c'est que ça résonne avec un sens de la mort, on pourrait dire. Alors désolé, c'est pas une heure très propice à ça, mais qu'a Terence Davis. Et j'ai toujours eu l'impression en voyant d'abord sa trilogie, c'est-à-dire ses premiers film, je ne sais plus, je crois que c'était à la fin des années 70, moi, je les ai vus qu'en 2000, mais toujours l'impression qu'il raconte ses souvenirs d'enfance, etc., mais à travers des sortes de voiles, de, comme si tout cela était déjà en train de se décomposer, mais que ça n'était pas quelque chose de triste, et que le cinéma était là pour les évoquer de manière poétique, justement.
Alors, on va rentrer dans le détail de ce qui est raconté. Effectivement, Thierry Chaise, vous, est-ce que déjà vous connaissiez ce poète? Est-ce que ce biopic, puisque Charlotte a lâché ce mot, est-ce que vous voyez dans ce film un biopic? Et qu'est-ce qui vous a intéressé ou non dans les carnets de Siegfried?
Alors, moi, je ne connaissais pas ce poète. Et je dois dire qu'en sortant du film, je ne le connaissais pas beaucoup plus. Mais ça donne envie de le regarder. J'ai le sentiment d'entendre la reine Elisabeth « Never explain, never complain », en fait, quand je vois le... Il y a une immense délicatesse derrière tout ça. Et Davis, c'est quand même ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui craint vraiment le sentimentalisme, la chose, s'apitoyer. Et c'est un geste formidable. Je trouve que moi, là, il est passé un cap qui fait que je me sens totalement extérieur, je sens quelque chose de très dévitalisé. Alors, sans doute, parce que ça va vers l'instant de mort, donc on perd tout simplement, moi, j'ai le sentiment que tous les sujets, il a pu les aborder. Quand il fait The Deep Blue Sea, il parle déjà de l'impasse du sentiment amoureux. Quand il fait Sunset Song, il parle de la guerre. Et j'ai eu le sentiment qu'il avait parlé de tout ça, en mieux que ça. Et là, c'est tellement dévitalisé. Et en même temps, tellement classique, parce que c'est pas déconstruit, ce sont des flashbacks. Enfin, que j'ai attendu tout le long qu'il se passe une émotion, qu'il se passe quelque chose, que je comprenne les évolutions énorme du personnage, c'est-à-dire qu'il passe d'un extrême à l'autre, et le réalisateur a voulu, eh bien non, c'est, justement, il n'y a rien de spectaculaire, et moi, ça m'a créé une distance chez moi, en tout cas.
Charlotte Garçon.
Ah oui, je comprends, d'ailleurs, son film de 2015 sur Emily Dickinson, oui. Donc encore une poétesse, mais cette fois-ci américaine, s'appelait A Quiet Passion. Donc c'est vrai
une
que...
Une passion tranquille.
Oui, c'est étonnant, ce mélange, pour moi, d'immersion totale, quand même dans une conscience, dans un sens nostalgique de la mémoire et dans une conception du cinéma comme étant vraiment l'archéologie de la mémoire, et en même temps, quelque chose qui peut paraître très à distance, très calme, on conteste, on est objecteur de conscience, mais sans s'agiter physiquement, etc. Moi, j'apprécie plutôt ce côté finalement assez déroutant, et cette grande liberté qu'il y a à associer dans un film du morphing, une imagerie parfois...
Du morphing, c'est quoi du morphing?
C'est quand un visage se transforme en un autre. Donc on prend un acteur qui a un certain âge et puis un autre qui a 30 ans de plus. Et on ne s'attend pas du tout à ce type de travail dans un film britannique de quelqu'un qui a 75 ans. Et bien il le fait. Et il le fait avec, pour moi, une liberté. Alors là, je projette peut-être un peu, mais comme sans souci du bon goût. Et qui me paraît terriblement britannique, parce qu'il me semble que à la fin de ce film, j'avais presque l'impression qu'on me donnait une définition de la britannicité, si ça peut se dire. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois un soldat émérite et un anti-militariste, qu'on peut être à la fois mondain, parce que c'est un homosexuel mondain, enfin il y a quelque chose de proustien là, dans ce qu'on voit, dans son comportement. Il vient d'une famille plutôt aisée, en tout cas il peut vivre comme ça sans gagner sa vie, et en même temps donc de très mondain, donc dans le monde, et en même temps de détacher, etc. Et c'est toujours cette espèce de contradiction qui, normalement, n'a pas sa place dans les biopics. C'est-à-dire que, donc, c'est pas du tout mais une formule.
Justement, est-ce que c'en est véritablement un? Parce que je pense que vous avez un peu botté en touche, Thierry Chaise. Vous n'avez pas voulu répondre. Le réalisateur, Terence Davis, part des biographies qu'il a lues, effectivement, de ce poète. Il part aussi de ses carnets intimes qui ont été notamment écrits durant son passage sur le front. Donc, on est effectivement déjà dans quelque chose de très intérieur, dans une œuvre très, très intimiste. Est-ce que véritablement, vous allez me dire non, je sens que ce n'est pas un biopic pour vous.
Si on entend par biopic quelque chose de très pédagogique, ou un début, un milieu, une fin, une connaissance totale de l'artiste, moi je n'ai pas trouvé ça, et je ne crois pas que ce soit ce qu'il vise. Si c'est un biopic, c'est un biopic de Terence Davis lui-même, en fait, j'ai l'impression.
Répondez et on y vient.
Ce qu'il faut peut-être dire sur le flashback, c'est qu'il n'y a même pas de flashback, dans la mesure où un flashback, donc un retour en arrière, impliquerait un temps zéro de l'énonciation, qui serait, on est à un moment, et puis on se souvient de sa jeunesse, etc. Or, Or, c'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus, il y a pas de référence temporelle. Donc, on est effectivement, on est beaucoup plus flottant. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire cette sorte de césure entre une extériorité pure et une intériorité d'une intimité, enfin, quasi larmoyante. Moi, au contraire, je suis pas sûre qu'il fuit le sentimentalisme. J'ai l'impression que parfois, et la nostalgie, parfois, il va jusqu'au kitsch. C'est très étonnant. Et jusqu'à l'absence de bon goût, du coup.
Et ce qui nous perd peut-être, enfin, en tout cas, nous perd dans ce récit où vous dites qu'il n'y a pas de point de référence, c'est aussi cette voix off qui vient lire les poèmes, de Sassoon et qui, voilà, sert un peu de guide, mais en même temps ne nous donne pas véritablement de points sur à quel endroit on est, enfin, l'endroit si, mais en tout cas, à quel moment de sa vie on est. La similarité, Thierry Chaise, entre le personnage et le réalisateur. C'est d'ailleurs ce que dit lui-même Jack Lowdon, qui incarne donc le poète dans le film. Pour lui, c'est évident, il y a des points communs biographiques entre les deux.
Oui, je pense qu'il y a cette grande souffrance de quelqu'un qui sans doute était à la fois dans sa vie écarté. Même, c'est quelqu'un, quand on a vu les films, enfin, il y a une rétrospective en ce moment, donc si vous êtes
au
à Paris,
Pompidou.
Au Centre Pompidou.
Jusqu'au 17
mars. Et c'est vrai que moi j'ai été touché par la plupart de ces films, mais c'est pas un auteur qui a été célébré dans tous les grands festivals du monde. C'est pas le premier auteur. Et je pense qu'il y a aussi ça. Et mais en même temps, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que justement, c'est presque l'anti-salle des profs dont on parlait. Et je comprends qu'on soit opposé là-dessus. C'est-à-dire que là, rien n'est, et j'aime vraiment le film qu'a vu Charlotte, j'aurais adoré le voir, mais et en même temps il est là. En effet, cette espèce de mauvais, ce mauvais goût assumé, mais c'est vrai que moi c'est ce qui me rend à distance. J'aurais aimé un peu plus d'être guidé peut-être, mais comme je l'ai dit, je n'ai rien. J'ai pas appris grand chose de ce poète en regardant le film, sauf que j'ai eu envie ensuite de m'y précipiter, d'en savoir plus, et quand j'en sais plus, eh ben, je comprends ce qu'il a voulu faire.
Charlotte, est-ce que c'est pour terminer un film testament pour ce réalisateur? Est-ce qu'il reprend des thèmes, des façons de faire qu'il a déjà utilisées dans ses œuvres précédentes?
Alors, je dirais seulement si on considère que tout le cinéma de Terrence Davis, depuis le début, est déjà un film testament. Et que la question du surplace, y compris du surplace amoureux dans ce film-là, parce qu'on est très antipathique, son amant principal, caractérise sa mise en scène. Donc, effectivement, c'est une drôle d'impression, mais j'invite Thierry Chaise à venir voir les films dans ma tête.
Invitation acceptée, Thierry ?
Acceptée totalement.
C'est parti. Et ben, vous pourrez peut-être revoir donc, Les Carnets de Siegfried de Terrence Davis, qui est en salle aujourd'hui en France. Et je rappelle, vous l'avez dit, Thierry, la rétrospective complète qui lui est consacrée donc, au Centre Pompidou à Paris. C'est jusqu'au 17 mars. On vous met évidemment toutes les références sur le site de France Culture. Merci à tous les deux. Thierry Chaise, on vous lit dans le magazine Première. Charlotte Garçon, on vous lit dans Les Cahiers du Cinéma. Et ce débat critique, et bien, vous pouvez le réécouter comme tous les autres sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.